philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 2 mars 1987.
Satélite. ça va jouer aussi au niveau du conseil. Le choix des moyens. C'est bien évident qu'un choix des moyens prudentiels est très net. Et il y a le choix des moyens affectifs et esthétiques, où l'aspect de la subjectivité prime sur la finalité. Alors ceci se voit pour la question du choix dans l'ordre des moyens, donc du temps et du lieu, puisque le choix des moyens implique le temps et les lieux. On anticipe, au contraire, on retarde, on perd un peu pédale, et ça se découvre dans le choix des moyens. Le choix des moyens se fait avant tout d'une façon affective. Où le choix des moyens se fait avant tout d'une manière esthétique. Des deux côtés, c'est la subjectivité qui prime. Et ce n'est plus la finalité qui prime. L'intelligence pratique fortifiée par l'habitus de prudence qui commence à pousser dépasse ces bouffées imaginatives, affectives, esthétique, pour redécouvrir le réalisme de la finalité. Et on choisit en fonction du réalisme de la finalité. Et on ne choisit pas le moyen en fonction du primat du sujet, ou du côté affectif, ou du côté esthétique. Réfléchissez sur le choix de vos moyens, savoir si ce choix des moyens est commandé par la finalité ou s'il est commandé par un primat subjectif. Troisième moment, c'est celui-là qu'on voit, qui est le plus difficile. Hein. Et le plus difficile, pas commun du tout, du reste, je n'ai jamais vu. Point de vue philosophique, la lumière là-dessus, nos phares anti-brouillard ne vont pas jusque-là. Les phares anti-brouillard atteignent assez facilement l'impériau, ça se voit, assez facilement le conseil. Mais peuvent-ils atteindre cela, nos phares anti-brouillard? C'est-à-dire notre intellect pratique, fortifié par la prudence. Ou faut-il faire appel à un autre habitus naturel, la Saint-Thérèse? Voyez le petit problème qui se pose, historiquement et spéculativement. Il est très intéressant. Il est d'autant plus intéressant qu'on ne l'a jamais posé. Tu vois, je crois pas. Alors, regardons bien comment l'imaginaire va corrompre ce premier amour. Je crois que là, seul, peut-être les deux, je dis seul, l'affectivité passionnel qui veut l'immédiat, parce que c'est le propre de la passion. La passion veut l'immédiat. La passion n'aime pas la délibération. C'est antipassionnel, la délibération. Et la passion veut son bien sensible immédiat. Et donc ce premier amour qui se porte sur la personne, qui suscite en moi un amour spirituel. Cet amour spirituel est au-delà du temps. Ça, c'est sûr. Tout amour spirituel est au-delà du temps. Quand on aime spirituellement, on est libre par rapport au conditionnement du temps et de l'espace. aspect passionnel le plus vite possible. On brûle le temps, on brûle les lieux. Et on voudra à tout prix que celui qu'on aime soit là pour qu'on puisse en jouir. Passion va corrompre ce premier amour, parce que ce premier amour est désintéressé. Il est libre, dans la mesure où il est spirituel, mais dans la mesure où il est possédé, dépassé par la passion. À ce moment-là, il n'est plus libre. C'est un peu le signal d'alarme qui montre qu'on est passé du domaine spirituel au domaine passionnel. Il n'y a rien de plus irritable que la passion. Si je suis très loin de celui qui m'aime, je lui échappe. Et si je suis dans le même lieu, après lui, je lui échappe. En termes passionnels. Et donc la passion veut que l'amour spirituel devienne relatif au temps et au lieu. Pour la possession. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que l'amour passionnel va corrompre l'amour spirituel en le remettant relatif au temps et à l'espace. Si nous sommes un tout petit peu lucides, nous comprenons très bien cela. Parce que nous avons tous fait cette expérience, du moins j'espère, où nous l'avons vu chez les autres. Mais cette espèce de lien entre l'amour spirituel, cette lutte plus exactement, entre l'amour spirituel et l'amour passionnel, au niveau tout à fait fondamental de l'amour. Parce que l'amour spirituel, quand il se transforme en une intention de vie, accepte les conditions de temps et de lieu. Il devient spirituel et lucide. J'accepte d'attendre, parce que fais tout ce que tu dois faire. Il ne faut surtout pas qu'à cause de moi, tu ne fasses pas ce que tu dois faire. Le respect à l'égard de la conscience de l'autre. Il ne faut surtout pas qu'à cause de moi, tu te mettes dans une situation qui n'est pas selon ta conscience. C'est ça l'intention de vie. C'est qu'on respecte le bien spirituel que je recherche et que ce bien spirituel, je ne l'ai pas encore atteint. Et j'accepte de ne pas l'atteindre tout de suite. Et donc j'accepte ce conditionnement du temps et du lieu qui conditionne ma manière d'atteindre la fin, qui conditionne mon impériau. Mon impériau est conditionné et mon choix est conditionné par le point de vue du temps et du lieu. Vous voyez ce télescopage que fait la passion et que fait l'histoire. l'imaginaire. L'imaginaire lié à la passion veut toujours télescoper le conditionnement du temps et du lieu. C'est pour ça qu'on se précipite et que ça, comme fait des gaffes. C'est dans un sens qu'on dit que l'amour rend aveugle. C'est vrai, il rend aveugle parce qu'il ne veut pas considérer la situation particulière dans laquelle se trouve celui qu'on aime. Et on ne le respecte plus dans son conditionnement. Alors, personnellement, je dis ça, hein, peut-être que vous pourrez changer de route. Je crois que l'intelligence pratique va jusque-là dans son éclairage. lié à la passion. C'est sûr. Puisque ce premier amour, c'est la naissance de l'amour en moi. Et donc la naissance de cet amour en moi implique un lien avec le point de vue passionnel. C'est impossible autrement. Et donc, ce premier amour affectif est encore très fragile. Il est très vulnérable. Il demande d'être fortifié par l'intelligence affective qui opte pour le bien. Mon bien spirituel, c'est ce bien spirituel que je veux et non pas la satisfaction immédiate de ma passion. Et donc, ce choix intérieur, c'est le choix entre deux biens. C'est la bataille des justes. C'est entre deux biens. C'est pas entre le bien et le mal. Non. C'est entre deux biens. Entre le bien spirituel, qui est la personne humaine que j'aime et qui m'attire. Et que je veux respecter et que je veux aimer. Et puis la passion véhémente qui veut la possession immédiate de ce bien. C'est donc la lutte entre le bien spirituel et la possession du bien sensible. C'est donc une lutte entre deux biens. C'est pour ça que je dis que c'est la bataille des justes. Bien et le mal. Non, 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 c'est pas ça du tout. Et c'est en ce sens-là que ça me semble être du domaine de la prudence. Parce que la prudence regarde toujours deux biens. Et la prudence met un ordre entre ces deux biens. C'est la au service de l'amour spirituel est là pour éclairer un ordre entre deux biens. Il ne faut pas que le bien sensible atteint par la passion l'emporte sur le bien spirituel. Il faut au contraire que le bien spirituel l'emporte pleinement sur le bien sensible. Je ne supprime pas le bien sensible. Non, non. Je suis suffisamment prudent pour savoir que le bien sensible est nécessaire. Mais s'il n'est pas premier, je crois que c'est l'acte souverainement prudent, cela. Je me connais. Je sais que je suis un être passionné, grâce à Dieu. La passion est bonne en soi, elle devient mauvaise quand elle efface le primat du bien spirituel. Et n'est-ce pas le premier discernement de l'intelligence affective qui fonde toute la prudence de faire ce discernement? Au-dedans de moi-même, dans cette bataille, c'est ça qui est difficile, hein. Quand c'est calme, on est tous d'accord, hein. Mais quand on est en pleine tempête, on dit après tout, le bien sensible à cette chose merveilleuse, c'est qu'il est immédiat, il me réveille, il me fait vivre, tandis que le bien spirituel, il est lointain. Il ne me fait pas vivre. Vous savez bien le vieux dicton qui fait se précipiter sur le premier bien. Celui-là, je suis sûr de l'avoir. L'autre, c'est pour demain. Je ne suis pas sûr de l'avoir. Entre deux, il y aura quelqu'un d'autre qui s'en empare. jouissance immédiate. Voyez, c'est là où nous voyons l'erreur de Freud. Freud met le bien passionnel, la jouissance passionnelle avant. Et ne respecte pas ce primat du bien spirituel. Par peur. C'est très important cela. Alors, la Sainte Thérèse, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la relègue à Avicenne en disant que Saint Thomas a été un bois. Il a avalé Avicenne alors que c'était pas nécessaire. Eh bien, je me demande. Saint Thomas est un théologien. Un théologien se sert aussi bien de la critique que de l'aspect positif, métaphysique ou éthique. Je me demande si la Sainte Thérèse ce n'est pas au niveau critique, dans l'ordre affectif. Si j'étudie d'un point de vue critique ce que représente l'action de cet intellect affectif qui fait passer devant le bien spirituel, par rapport à la jouissance sensible. Si je regarde cette naissance de l'acte prudentiel, au plus intime, de ma vie éthique, je dis que cet acte s'explique parce qu'il y a en moi un appétit affectif primordial du primat du bien sur le mal. Ce qu'on a appelé l'habitus de la Sainte Thérèse. Et cet habitus de la Sainte Thérèse est posé d'un point de vue critique et pas d'un point de vue de philosophie éthique. Voilà ce que je dirais. C'est très normand. Parce que par là, je respecte que saint Thomas a assumé la Sainte Thérèse. Il n'a pas fait d'erreur. En tant que théologien. Et l'erreur, c'est la scolastique. Elle a bon dos. L'erreur, c'est la scolastique d'avoir confondu éthique et critique. Et donc de ne pas avoir vu que la prudence doit aller jusque-là. Et ça, c'est très important. Parce que la prudence, ça s'acquiert. Tandis que la Sainte Thérèse ne s'acquiert pas. C'est trop facile de dire que c'est la nature bonne qui fera que ce premier amour sera choisi naturellement, ce qui n'est pas vrai du tout. On sait très bien que quand la lutte est là, ce premier amour à l'égard d'un bien spirituel n'est pas tout le temps choisi. Je vous dis, c'est la guerre des justes. C'est pas la guerre entre le bien et le mal. C'est trop facile. Bien et le mal, c'est un aspect critique. Et dans un aspect critique, je vois qu'en effet, il y a un appétit naturel qui se porte vers le bien, antérieur au mal. Le mal ne se présente jamais sous le point de vue connais le mal. Jamais, même le démon. Je choisis un bien immédiat, qui est une apparence de bien, qui est un bien vraisemblable. C'est ça que je choisis. Et je me laisse prendre par ce bien immédiat. Et me laissant prendre par ce bien immédiat, le bien spirituel disparaît. Et je ne vois plus que ce bien immédiat. C'est la psychologie de l'ivrogne, du drogué. On est tous comme ça. Alors à ce moment-là, on prend le bien immédiat. Bien qu'on ait fait toutes les promesses possibles dans la dernière retraite, de dire dorénavant, ce sera toujours le bien spirituel qui dominera. Je mets ça dans mes décisions de retraite. Je termine la retraite dès le lendemain. Le bien sensible apparaît avec une telle force que je l'embrasse. Et je tourne le dos au bien spirituel en choisissant le bien. C'est ça qui est le mieux. Je ne choisis pas le mal. Alors il faut t'expliquer ça d'une manière critique. Comment ça se fait? Et qu'en effet, le bien spirituel, pour moi, n'est jamais immédiat. Elle me donne une fébrilité. Je veux quelque chose d'immédiat. J'en ai assez de l'immédiat. Je veux quelque chose d'immédiat. Je ne peux plus supporter d'attendre. Alors, c'est la passion qui passe avant. Mais je dis bien, d'un point de vue critique, qu'il y a toujours une primauté du bien à l'égard du mal, la Sainte Thérèse. Mais la pauvre petite Sainte Thérèse, elle est très, très fondamentale. C'est vrai que l'intellect pratique me dit toujours le primat du bien par rapport au mal. Mais dans l'ordre pratique, le mal s'habille d'une manière telle qu'il est le bien sensible qui m'attire. Il est alléchant. Et c'est le grand carnaval, ça. C'est le bien sensible qui m'apparaît comme le bien. C'est le bien sensible. C'est le bien. De sorte que ça reste très vrai, le primat du bien sur le mal. Mais n'oublions pas, tout point de vue passionnel qui me fait porter sur le bien immédiat, sensible. Voyez, je crois que c'est ce que nous devons essayer de comprendre. Donc là, je dirais que le problème de la Sainte Thérèse est l'analogue au niveau critique à l'axiome du principe de non-contradiction. L'axiome du principe de non-contradiction, il est au niveau critique, et pas au niveau métaphysique. La Sainte Thérèse, c'est un axiome d'ordre pratique. Dans l'ordre pratique, il faut toujours choisir le bien. Évitez le mal. On est tous d'accord. Il faut toujours choisir le bien et éviter le mal. Mais comment se présente à nous cette action pratique? Il se présente à nous dans une lutte intestine, immanente, puisque c'est toujours dans l'immanence que se fait les choix pratiques. L'un immédiat et l'autre plus lointain. L'un spirituel et l'autre sensible. De sorte que je n'ai pas besoin de poser un autre habitus que la prudence. La prudence doit aller jusque-là dans l'ordre pratique. Je le crois bien. Si vous n'êtes pas d'accord, mettrez vos objections. Parce que c'est intéressant, je soulève là un très gros problème. Je le dirai dans la tradition thomiste. Parce que je fais un discernement en ce qui est de l'ordre critique et de l'ordre philosophique. Et que la scolastique a mêlé les deux. Parce qu'elle était une laïcisation philosophique d'une pensée théologique. Vous êtes très sensibilisé à ça. Si on n'est pas sensibilisé à ça, on ne voit plus du tout les niveaux d'intelligibilité. Et c'est très important de comprendre les niveaux d'intelligibilité. Il y a une critique au niveau pratique. Il y a une critique au niveau spéculatif. La critique au niveau pratique n'est pas la philosophie éthique. La philosophie éthique est immédiatement engagée par le problème de la finalité. Alors ceci fait comprendre, vous voyez, parce que c'est important, ceci fait comprendre pourquoi les anciens, et quand je parle ici des anciens, je parle de Platon, je parle aussi d'Aristote. Considérer la prudence comme une sagesse pratique. Si la prudence n'allait pas jusque-là, elle ne serait pas sagesse. Mais si elle va jusque-là, phronesis, si elle va jusque-là, elle est sagesse dans l'ordre pratique. Parce que le propre de la sagesse, c'est de toucher la fin et de défendre la fin et de permettre à la fin, ce qui nous finalise, d'exercer pleinement sur moi dans l'ordre pratique son rôle. Si la prudence est cantonnée dans les moyens et que la prudence n'atteint pas la fin, je ne vois pas comment la prudence peut choisir. Et je ne vois pas comment la prudence peut être dite sagesse. Il n'y a pas de sagesse au niveau des moyens, comme il n'y a pas de sagesse au niveau des conclusions scientifiques, des niveaux scientifiques modernes. Il n'y a pas de sagesse. La sagesse est au niveau de la découverte des principes. Or, dans l'ordre pratique, la prudence doit pouvoir, comme intellect affectif, toucher le bien en reconnaissant que ce bien est ma fin. C'est donc l'intelligence affective qui me donne le sens que le bien que j'aime, c'est ma fin. Et ça, c'est l'intelligence qui dit ça. C'est pas l'affectivité, c'est impossible. C'est l'intelligence qui dit ça. Et c'est l'intelligence perfectionnée par la prudence qui le dit. Et je dirais même que c'est le premier acte de la prudence. Premier dans l'ordre nature. C'est la prudence, sagesse, qui me permet de découvrir que ce bien spirituel, c'est ma fin. Et en disant ça, l'intelligence affective permet cette transformation de ce bien spirituel en une intention de vie. Et donc, mon affectivité spirituelle permet à mon affectivité spirituelle d'avoir un ordre. être spiritualisé. C'est l'intelligence dans ce qu'elle a de plus profond, la perspicacité de l'intelligence qui ordonne cet appétit spirituel pour faire que cet appétit spirituel devienne une intention de vie et donc soit capable de mobiliser toutes mes forces, puisque c'est propre une intention de vie, c'est de mobiliser toutes mes forces. L'appétit premier, cet appétit spirituel, cet appétit qui se porte sur le bien spirituel, qui est présent et qui m'attire, cet appétit comme tel est incapable de mobiliser toutes mes forces. Il faut l'intervention de l'intelligence. Et c'est l'intervention de l'intelligence dans cet appétit spirituel qui permet cette mobilisation de toutes mes forces et qui permet par le fait même à cet appétit spirituel de devenir fort et d'organiser toute ma vie et tous mes efforts. Il me semble un petit